comment un simple petit bout de carton de quelques centimètres carrés, un truc légèrement jauni par le temps, peut agir comme une véritable machine à remonter le temps.
C'est une excellente question, ça.
Franchement, c'est une question qui mérite qu'on s'y arrête. Surtout quand ce carton arrive à capturer l'essence même d'une société en pleine mutation.
Complètement.
Du coup, aujourd'hui, notre immersion nous emmène dans le sud de la France, au tout début du XXe siècle, sur les traces d'une figure locale dont le parcours est assez fascinant, en fait. C'est un certain Désiré Malzac.
Oui, Désiré Malzac.
Et le but de notre exploration aujourd'hui, c'est pas simplement de faire une biographie chronologique, linéaire et ennuyeuse, c'est surtout de comprendre comment un artisan très ancré dans la matérialité de son métier a pu, presque par accident, devenir l'archiviste visuel de toute la région de l'Aveyron.
Exactement. Et pour mener à bien cette analyse, pour ceux qui nous écoutent, on a la chance de s'appuyer sur une source d'une précision vraiment remarquable. C'est le bulletin numéro 30 du Cartoclub Aviéronais.
Un document exceptionnel.
Ah oui, et il faut d'emblée souligner la rigueur de cette source. L'article central que nous décortiquons, qui s'intitule « Désiré Malzac, éditeur rutellois », a été rédigé par Jean-Pierre Crume.
Ouais.
Et c'est un vrai travail de fourmi, c'est une recherche d'archives très poussée, qui évite l'écueil de la simple nostalgie, tu vois, pour vraiment documenter une réalité socio-économique.
C'est pas juste des vieilles photos pour faire joli, quoi.
Non, voilà, pas du tout. Et d'ailleurs, il faut aussi absolument mentionner le travail de Guy Mazard. Il est le rédacteur en chef et aussi le concepteur de la mise en page de ce bulletin. Et c'est vraiment grâce à cette mise en forme très soignée que les archives visuelles prennent tout leur sens. Ça permet une lecture historique, claire de tous ces documents.
Ce qui m'a tout de suite frappé, en plongeant dans le texte de Jean-Pierre Crume, c'est qu'on ne parle pas initialement d'un artiste, ou même d'un journaliste. On parle d'un artisan du verre.
Ce qui est fascinant ici, c'est justement ce point de départ.
C'est ça. En fait, l'histoire commence à Requista, un petit bourg de l'Aveyron. On est le 15 novembre 1866 et c'est la date de naissance de notre Désiré Malzac. Et il s'inscrit dans une véritable dynastie de vitriers.
Une longue lignée, oui.
Dont le métier. Pendant 3 ou 4 générations, ce sont des vitriers ambulants.
Et c'est un point de départ qui est fondamental pour comprendre le personnage. Parce que le métier de vitrier ambulant au XIXe siècle, ça n'a absolument rien à voir avec l'artisanat sédentaire qu'on s'imagine aujourd'hui.
Ah non, on est loin de la boutique bien chauffée.
C'est clair. Ce sont des hommes qui parcourent les routes escarpées, souvent rocailleuses du Rouergue. Et ils portent sur leur dos, dans des hottes spéciales, de très lourdes et très fragiles plaques de verre.
Franchement, j'imagine même pas la difficulté du truc.
C'est une vie d'itinérance totale. Elle est rythmée par les intempéries, par la précarité des commandes dans les campagnes, et ça forge une résilience physique, bien sûr, mais surtout, et c'est le plus important pour la suite, une acuité commerciale assez incroyable.
Bah tu m'étonnes.
Quand on marche des kilomètres en montagne pour aller remplacer un simple carreau cassé dans une ferme isolée, on apprend forcément à lire son environnement, à comprendre les besoins des gens et à saisir la moindre petite opportunité économique qui se présente.
Et justement, l'opportunité, Désiré Malzac va pas l'attendre, il va aller la chercher en ville. En lisant le récit de son départ de Requista pour s'installer à Rodez, j'ai été un peu scotché par la description des conditions de voyage.
Ah oui, le fameux trajet.
Voilà, on est à la fin du 19e siècle, et le déménagement de toute une famille vers le chef-lieu, c'est pas une mince affaire. L'article s'appuie sur le témoignage d'un voyageur de l'époque, Ardoin Dumazet, pour nous faire vraiment ressentir la rudesse du trajet.
Un témoignage très précieux.
Ouais. On parle d'une famille entière, avec un premier enfant, avec tous leurs effets personnels, entassés dans une voiture publique qui est décrite, je cite, comme un break usé, mal suspendu, avec des rideaux troués.
La citation d'Ardoin Dumazet, elle est hyper révélatrice de l'enclavement de certaines régions françaises à cette époque-là. Ce voyage chaotique, tu vois, dans le froid, la poussière, sur des routes très mal entretenues, ça illustre parfaitement la rupture gigantesque que représente cette migration pour la famille.
C'est clair, c'est pas juste un petit trajet.
Non, quitter Requista pour Rodez, c'est pas seulement changer d'adresse postale, c'est carrément changer de paradigme économique.
Exactement.
Il quitte une zone rurale où, comme le note très malicieusement la source, il ne se casse pas des carreaux tous les jours. Et il intègre un marché urbain qui est, lui, en pleine expansion. À ce moment-là, Rodez se modernise, les bourgeois font construire de belles demeures, les devantures de magasins s'agrandissent dans les rues commerçantes. Bref, il y a un besoin crucial de verre.
Et son instinct, visiblement, il ne le trompe pas. Parce qu'une fois à Rodez, c'est une ascension fulgurante. Il s'installe d'abord au 9 rue Neuve, et là, on le voit faire évoluer son offre de manière très très stratégique.
Il s'adapte très vite.
Voilà, il se contente plus du tout de poser du verre commun à la demande. Le texte mentionne qu'il propose du verre dépoli, du verre biseauté et même du verre de luxe, qui vient de chez Saint-Gobain.
Oui, la fameuse manufacture.
C'est ça. Et il ajoute aussi la miroiterie et l'encadrement à ses services. Les affaires marchent tellement bien qu'il finit par racheter un grand local juste en face, au numéro 12 de la même rue, pour s'y développer encore plus.
Et tu sais, l'introduction des verres de la manufacture de Saint-Gobain dans son catalogue, c'est pas du tout un détail anodin. C'est vraiment le symbole d'un embourgeoisement de la clientèle ruthénoise. Il recherche du confort, de l'esthétique.
C'est une montée en gamme, quoi.
Exactement. Malzac accompagne cette modernisation de l'habitat. L'artisan qui réparait les petites lucarnes brisées dans les fermes devient le fournisseur de grands miroirs luxueux pour les salons de la bourgeoisie locale. Et l'ajout de l'encadrement, c'est la charnière logique vers la suite de son histoire.
Ah oui, le lien avec l'image.
Voilà, parce que quand on encadre des images pour les autres toute la journée, fatalement, on commence à s'intéresser à la nature même de ces images.
Mais juste avant de parler de son rapport aux images, il y a un aspect de sa personnalité qui transparaît super clairement dans les documents. C'est qu'il n'a jamais oublié ses racines. Le fait de réussir en ville, de devenir un commerçant aisé, ça l'a pas du tout coupé de son bourg natal de Requista.
C'est vrai.
On a d'ailleurs une trace super tangible de cet attachement. Il y a une carte postale spécifique qui est citée dans le bulletin qui s'intitule « Requista Aveyron, la grande rue et la poste ». Il a vraiment pris le soin d'éditer une vue des rues et des commerces de son enfance.
C'est une démarche très intéressante de sa part. Parce qu'en éditant cette carte de Requista, il fait bien plus qu'un simple petit clin d'œil nostalgique.
Ouais.
Il utilise son tout nouveau statut d'éditeur pour donner une visibilité, une sorte de permanence imprimée au lieu qu'il a vu naître. C'est une manière de valider son propre parcours, en fait. C'est l'enfant du pays qui part sans rien, qui réussit à la ville et qui revient immortaliser les siens avec les outils de la modernité.
Et la modernité, justement, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment ce miroitier, ce spécialiste du verre, se retrouve à installer des tourniquets de cartes postales devant sa boutique de la rue Neuve? Le glissement vers l'édition photographique m'a d'abord semblé un peu surprenant. Mais en y repensant, les premiers négatifs photographiques, c'était pas les plaques de verre par hasard.
L'intuition est tout à fait juste. La photographie de l'époque repose massivement sur l'utilisation de plaques de verre. On les recouvrait d'une émulsion sensible à la lumière et un artisan miroitier, par définition, il possède déjà toute l'expertise nécessaire pour manipuler, découper, nettoyer et stocker le verre avec une précision extrême.
Du coup, c'était son élément.
C'est ça. La transition matérielle, elle est d'une fluidité totale pour lui. Mais au-delà de la technique pure, il y a une bascule conceptuelle qui est vertigineuse.
Comment ça ?
Eh bien, en passant de la vitrerie à la carte postale, Malzac cesse de vendre un matériau transparent à travers lequel on regarde le monde pour se mettre à vendre une surface opaque sur laquelle le monde est fixé.
Ah ouais, c'est joliment dit.
Il passe d'une économie de l'utilitaire à une véritable économie de la mémoire et de la représentation.
Et c'est super fascinant vu sous cet angle. Et visiblement, il a très très vite compris comment jouer avec cette représentation, y compris sa propre représentation.
Ah oui, il avait compris le marketing avant l'heure.
Complètement. Il y a cette fameuse carte qui est sobrement numérotée 377R Rodez, rue Neuve, et elle est décrite en détail par Jean-Pierre Crum. C'est pas juste une simple vue de la rue. On y voit la devanture de sa première boutique au numéro 9, avec tous ses tourniquets de cartes postales bien en évidence.
Oui.
Et au centre de la composition, carrément sur le seuil, il y a Désiré Malzac en personne. Il est là, il a la casquette bien droite, la cravate bien nouée, il arbore une grosse moustache super typique de l'époque et il fixe l'objectif avec beaucoup d'assurance. Tout ça entouré par une quinzaine de passants hyper curieux.
On pourrait voir ça comme une simple coquetterie, un petit moment de vanité de la part d'un commerçant qui réussit. Mais dans le contexte du commerce du début du siècle, c'est une stratégie d'ancrage local qui est extrêmement puissante.
C'est clair qu'il s'affirme.
En se plaçant physiquement au centre de la carte, qui représente sa propre rue, il s'institue de fait comme une figure incontournable de la vie ruthénoise. Il devient lui-même un monument de la ville, finalement, au même titre que les vieux bâtiments de pierre autour de lui. C'est un peu une façon de dire à tout le monde « Je suis l'œil par lequel vous allez désormais voir cette ville ».
Cet œil, il était plutôt aiguisé. Il avait un sacré sens de l'observation et un vrai talent pour les relations humaines. Le bulletin fourmille de petites anecdotes qui montrent comment il gérait son affaire au quotidien.
Ah, les anecdotes sont savoureuses.
J'ai particulièrement souri en lisant l'histoire qui implique Monseigneur de Ligonnès, l'évêque de Rodez.
Elle est géniale, celle-là.
La scène est digne d'un film. L'évêque se promène en civil, incognito dans la ville, et il s'arrête devant les tourniquets de la boutique de Malzac. Et là, il repère une carte à son effigie, et il demande avec un petit brin de malice « Voyons, monsieur Malzac, combien vendez-vous mon portrait ?»
Et la réponse de Malzac ?
Du tac au tac. Malzac l'a parfaitement reconnu, et il répond « 10 centimes, monseigneur. » Et l'évêque de rétorquer tout de suite, « 10 centimes seulement, ce n'est pas cher payé de ma personne. »
Le charme de la réplique est évident, mais si on gratte un tout petit peu sous la surface, cette anecdote révèle une finesse diplomatique qui est essentielle pour un commerçant de cette époque-là.
Pourquoi il y avait un contexte particulier, Alain ?
Absolument. Il faut se rappeler que la France de ce début de siècle, elle est traversée par de très profondes tensions politiques et religieuses. On est en plein dans les débats sur la séparation de l'Église et de l'État.
Ah oui, c'est tendu.
Or, le texte de Jean-Pierre Krume précise que Malzac vendait à son étalage des journaux comme La Dépêche. Et la ligne éditoriale de La Dépêche était très marquée à gauche et franchement anticléricale, ce qui heurtait profondément l'Union catholique locale.
Ben d'accord, donc c'était un peu risqué commercialement.
Voilà. Le fait que l'évêque s'arrête discuter amicalement avec lui, ça prouve que Malzac réussissait à naviguer avec brio au-dessus de tous ses clivages. Pour lui, le commerce primait sur l'idéologie. Il savait ménager la chèvre et le chou.
Et ça a payé, littéralement, puisque malgré ses étalages de journaux un peu controversés pour l'Église, il décroche par la suite le droit d'éditer le portrait officiel de Monseigneur de Ligonnès en 1906.
Exactement.
On a d'ailleurs la carte postale correspondante dans les archives du bulletin. Réussir à garder le clergé comme client VIP tout en vendant la dépêche tous les matins, c'est de la haute voltige.
C'est un grand diplomate.
Mais sa ruse, elle ne s'arrêtait pas aux autorités ecclésiastiques. J'ai été encore plus impressionné par sa façon de gérer la petite délinquance locale avec l'anecdote que l'auteur titre l'escroc.
Oui, alors ça, c'est une illustration absolument parfaite de ce qu'on appellerait aujourd'hui la résolution non violente des conflits.
C'est exactement ça. Krume raconte qu'un client très digne, un notable de la ville, toujours bien mis, fréquentait régulièrement la boutique. Le seul problème, c'est qu'après chacun de ses passages, et il était toujours muni d'un grand parapluie fermé, quelle que soit la météo, eh bien il manquait mystérieusement des cartes postales dans les tourniquets de l'aventure.
C'est curieux quand même, ce parapluie.
Malzac comprend très vite le manège. Le notable glisse discrètement les petits cartons dans les plis de son parapluie, quand personne regarde.
Et n'importe qui d'autre aurait fait un scandale.
Exactement. Au lieu d'appeler la police ou de hurler aux voleurs au milieu de la rue Neuve, Malzac attend patiemment la visite suivante. Quand le client a fini son petit tour de passe-passe, Malzac l'accompagne très poliment jusqu'au seuil de la porte. Et là, d'un coup, il s'exclame « Oh, monsieur Dubois, il va pleuvoir, ouvrez vite votre parapluie. Si, si, je sens déjà des gouttes !»
La mise en scène est parfaite.
Joignant le geste à la parole, Malzac s'empare du parapluie et il l'ouvre brusquement. Ce qui provoque, je cite le texte, une pluie de cartes postales au pied du client qui reste complètement pétrifiée.
Ce qui est brillant dans cette intervention, c'est qu'elle préserve totalement l'ordre social, tout en réglant le problème commercial à la source.
C'est sûr qu'il a dû avoir la honte de sa ville, gars.
La réputation de la boutique de Malzac.
Mauvais pour les affaires.
Tout à fait. En utilisant l'humour, le faux prétexte de la pluie et l'effet de surprise, Malzac le confronte à son acte de manière indéniable, mais sans jamais prononcer le mot « voleur ».
C'est très subtil.
Le message est passé de manière limpide. Je sais ce que vous faites, maintenant arrêtez. C'est l'intelligence pratique de l'artisan ambulant. Il a appris à gérer toutes sortes de personnalités compliquées sur les routes et il a transposé ce savoir-faire sur le pas de sa porte en pleine ville.
C'est vraiment ça. Bon, au-delà de ces interactions savoureuses avec les clients, il faut vraiment qu'on s'attarde sur l'ampleur et la diversité du travail photographique qu'il a laissé derrière lui.
C'est le cœur de son héritage.
Quand on regarde les différentes cartes citées par le carto-club aveyronnais, on se rend compte qu'il ne s'est pas du tout limité à la devanture de sa boutique ou au portrait de notable. Il y a un éclectisme qui est follement ambitieux. Il couvre tout le spectre du développement de la région. D'un côté, on voit qu'il est fasciné par le progrès technique. Il prend des clichés des gares, des trains fumants, des grands chevalements des mines de gage.
Ce choix de photographier les infrastructures industrielles naissantes ou l'arrivée du chemin de fer, c'est vraiment symptomatique d'une volonté de documenter le désenclavement de l'Aveyron.
Ouais, l'ouverture vers l'extérieur.
La locomotive, à l'époque, c'est la vitesse. C'est la connexion directe avec Paris. Et c'est la fin de l'isolement que ses ancêtres vitriers subissaient quand ils devaient marcher de village en village sous la pluie.
Mais en parallèle de cette fascination pour le fer et le charbon, il prend aussi le temps d'immortaliser une ruralité qui semble aujourd'hui appartenir à un autre millénaire. La carte numéro 152 Rodez, vacherie de la ferme Robinson, c'est un exemple magnifique.
Oui, très belle image.
Jean-Pierre Krume l'accompagne d'un commentaire presque poétique dans son article. Il rappelle le temps où, je cite, « Rodez fleurait bon le lait frais ». On y voit une exploitation agricole qui est littéralement aux portes de la ville.
Le contraste est saisissant.
Et puis, il y a ces scènes qui relèvent presque du surréalisme pour un œil contemporain. Je pense notamment à la carte 200, Rodez, passage de bohémiens, avec leurs ours dans les environs de Rodez. C'est une image incroyable. On voit des hommes sur un chemin de terre qui tiennent d'énormes ours au bras en laisse. Et tout le monde agit comme si c'était la chose la plus banale du monde.
C'est fou, hein? Si on relie cela au contexte plus large, cette juxtaposition entre la mine industrielle ultra-moderne et les montreurs d'ours itinérants, c'est précisément ce qui donne sa valeur inestimable au fonds Malzac.
C'est-à-dire?
Eh bien, on pourrait regarder ces images aujourd'hui et se dire, naïvement, qu'elles sont simplement pittoresques ou juste insolites. Mais pour les chercheurs, les historiens, les sociologues ou même pour les généalogistes d'aujourd'hui, c'est une donnée brute, non altérée.
Une vraie capsule temporelle.
Exactement. Ces cartes postales documentent une époque charnière, ce moment très spécifique de l'histoire où les traditions séculaires et itinérantes croisent les prémices de la révolution industrielle, et ça, dans un espace géographique qui est assez restreint.
C'est le choc des deux mondes.
Et il faut bien comprendre que la carte postale illustrée, c'était le média de masse de cette génération-là. C'était la toute première véritable démocratisation de l'image. Pour quelques centimes seulement, n'importe quel habitant pouvait envoyer une preuve visuelle de son environnement à l'autre bout du pays.
Un peu comme Instagram aujourd'hui, mais par la poste.
C'est ça. Malzac a compris très tôt que tout méritait d'être documenté. Du grand notable à l'ouvrier de la mine, de la cathédrale imposante à la simple vache laitière de la ferme d'à côté.
C'est un travail titanesque de captation du réel. Et toutes ces décennies passées à figer le temps pour les autres, elles finissent inévitablement par s'arrêter. Le texte nous apprend que Désiré Malzac s'éteint le 2 décembre 1951. Il a alors l'âge respectable de 85 ans.
Une belle longévité.
Oui. Et il meurt là où tout s'est joué pour lui, dans son fameux magasin rue Ténoir. Mais il y a un dernier détail dans l'article, une petite trouvaille d'archives qui m'a laissé sans voix.
Ah oui, la fameuse mention.
Ouais. Quand on consulte l'enregistrement de son décès à l'état civil, l'employé municipal a rempli la case de sa profession avec une formule qui est, franchement, un peu glaçante. Il a écrit « sans profession ».
C'est vraiment le comble de l'ironie administrative.
N'est-ce pas? C'est presque absurde quand on y pense.
Surtout pour un homme qui a littéralement passé toute sa vie à définir, à encadrer et à immortaliser les métiers des autres. Cet homme a eu 1000 vies professionnelles.
C'est clair.
Il a porté le lourd verre sur son dos sur les chemins de terre, il a taillé des miroirs luxueux pour la bourgeoisie, il a été un éditeur prolifique de milliers d'images, un photographe audacieux, un commerçant d'une diplomatie redoutable.
Et ça finit par un « sans profession ».
Réduire cette incroyable densité d'existence à un banal « sans profession », ça souligne à quel point les cadres administratifs sont parfois totalement incapables de saisir la véritable nature du travail d'une vie, surtout quand ce travail, finalement, a consisté à bâtir notre mémoire collective.
C'est une excellente façon de résumer son impact. On a suivi le fil de cette existence hors du commun, de la rudesse des chemins de Requista au succès de la rue Neuve. On est passé des plaques de verre utilitaires aux fameuses cartes postales qui ont fait le tour de la France entière. Le travail super minutieux du Cartoclub Aviéronnais nous a vraiment permis de voir l'homme derrière l'objectif, un artisan devenu le témoin incontournable de la bascule de tout son territoire vers la modernité.
Et si on prend un peu de recul sur cette trajectoire pour ceux qui nous écoutent, cela amène nécessairement à une réflexion plus large sur notre propre rapport à la trace et à l'archive aujourd'hui.
C'est vrai que ça a bien changé.
Totalement. Aujourd'hui, la captation de notre environnement, c'est devenu un réflexe permanent pour nous tous. La technologie, elle nous permet de figer des milliers d'instants chaque jour, sans aucun effort technique ni financier, contrairement à l'époque de Désiré Malzac.
On sort le téléphone et hop, c'est dans la boîte.
Mais face à cette surabondance d'images, souvent très évanescentes, privées de contexte physique ou de vrais supports pérennes, on est en droit de se poser une question cruciale.
Laquelle ?
Dans un siècle, lorsque les chercheurs de l'avenir voudront comprendre la texture exacte de notre quotidien, bien au-delà des grands récits officiels, quels seront les supports tangibles sur lesquels ils pourront vraiment s'appuyer ? Et surtout, qui sont les Désiré Malzac contemporains ?
C'est une très bonne question.
Qui sont ces observateurs de l'ombre très ancrés dans la matérialité de notre époque qui sont capables de capturer l'improbable et le banal avec assez de perspicacité pour que tout cela survive à l'usure du temps. C'est une perspective qui devrait sans doute nous inciter à regarder nos propres environnements familiers avec beaucoup plus d'attention.